tout ce spectacle. Tout ce spectacle, l'actualité du spectacle vivant à Toulouse et dans la région. Une émission présentée par Emmanuel Gaillard.
Bonjour à toutes et à tous. En 2023, nous fêterons, entre autres, les 20 ans de la compagnie de Pierre Rigal, l'une des plus talentueuses compagnies chorégraphiques de Toulouse. Avec plus de 15 créations chorégraphiques à son actif, c'est la compagnie de danse de notre région qui tourne le plus en France et à l'étranger. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Rigal, fondateur et chorégraphe de la compagnie Dernière Minute. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Tout ce spectacle, l'interview.
Alors Pierre, tu es né à Moissac, et donc un enfant du pays, si j'ose dire. Et après une maîtrise d'économie et un DEA de cinéma à l'ESSAV, tu deviens athlète de haut niveau en 400 mètres et 400 mètres haies, puis danseur, puis chorégraphe et enfin directeur de compagnie. Tu as créé un premier solo en 2003 et depuis tu as produit une quinzaine de pièces très très différentes, que ce soit avec des danseurs contemporains, des danseurs de hip-hop, des danseurs classiques, et aussi avec des chanteurs lyriques, témoin la flûte enchantée de Mozart que tu as donnée au Capitole voici un an. Depuis une quinzaine d'années, donc, ta compagnie connaît un vrai succès à l'international et tes créations rayonnent dans le monde entier. C'est donc une espèce d'ovni, en quelque sorte, que ton parcours est celui de ta compagnie. Alors, première question, comment passe-t-on d'athlète à danseur, de cinéaste à chorégraphe et de danseur à directeur de compagnie? Alors, ça fait un peu trois questions, on va commencer peut-être par la première. Comment passe-t-on d'athlète à danseur?
Bien, en fait, oui, j'ai enfant et jeune adulte, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais un peu un boulimique de sport, de football. J'ai beaucoup joué au football et fait beaucoup d'athlétisme, mais on va dire tous les sports. J'étais vraiment un suractif, on va dire, un hyperactif, comme on dit maintenant. Et voilà, l'athlétisme, ça a été mon sport de prédilection, le sprint. Donc, je faisais donc du 400 mètres et du 400 mètres haies. Et puis, en fait, à l'âge de 22, 23 ans, ou même un peu avant, je commençais à avoir des blessures. En fait, l'athlétisme ou le sport, c'est cruel parce que lorsqu'on est blessé ou même légèrement blessé, eh bien, on n'est pas à 100%. Donc, on ne peut pas être au meilleur niveau et donc il y a quelque chose d'un peu frustrant là-dessus. Et donc du coup, ces blessures m'ont amené à ralentir un peu ce rythme du haut niveau. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai besoin quand même de bouger, j'ai une énergie énorme et il faut que je la canalise. Et là, un peu par hasard, je dirais, j'ai pensé à la danse. J'aimais la danse sans vraiment la connaître. Je l'aimais peut-être tout simplement en boîte de nuit, pour les fêtes, etc. Je voyais que j'aimais danser. Mais c'était pas structuré du tout, ni dans mon éducation, ni professionnellement, bien sûr. Et donc, du coup, par l'initiative d'une amie qui allait prendre un cours de danse à l'espace Saint-Cyprien à Toulouse, donc ça reste
dans le quartier,
ça reste du local. Et bien, là, je suis allé prendre ce cours qui était dans un cours de rythme primitif et qui était donné par un très bon chorégraphe, j'ai eu de la chance, qui était donc Eddy Mallem.
Ah oui.
Donc mon premier cours de danse, c'était Eddy Mallem. Donc je trouve que je suis bien tombé. Puisque
oui, c'est un grand nom de la danse contemporaine.
Exactement, qui de suite... Alors, j'étais pas du tout à l'aise forcément dans ce premier cours, parce que c'était mon premier cours. J'étais le seul garçon dans l'assemblée, donc j'étais un peu intimidé. Mais de suite, ça m'a quand même plu. J'ai de suite accroché voilà, c'est parti comme ça. J'ai du coup été très assidu à tous ces cours. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre des stages par-ci par-là. J'ai aussi appris un peu tout seul aussi ou avec d'autres amis. Et ça s'est fait comme ça. Et au départ, c'était simplement un loisir. Mais ce loisir est devenu de plus en plus prégnant au fur et à mesure.
Tu es devenu du coup danseur professionnel, engagé dans beaucoup de compagnies, dont la plus célèbre est celle peut-être de Philippe de Coufflet, mais aussi beaucoup d'autres compagnies professionnelles. Alors, deuxième question, tu as une formation de cinéaste, tu as d'ailleurs été cinéaste, je crois, hein, si j'ai lu ta bio, mais alors comment est-ce que entre cinéaste et chorégraphe. Déjà, danseur à chorégraphe, ce n'est pas forcément les mêmes compétences, même s'il y a des liens évidemment intimes. Mais cinéaste, chorégraphe, là aussi, il y a des passerelles, il y a quelque chose.
Alors en fait, les passerelles, elles ne se font pas exactement dans ce sens-là. En effet, il y a eu une passerelle entre le sport et la danse. Et ensuite, moi, dans mon travail, professionnellement, je commençais à travailler en effet dans l'audiovisuel. Mmh. Et comme j'avais créé une société de production audiovisuel, et donc je commençais en effet à faire à la fois des vidéoclips et aussi des documentaires. Donc j'avais commencé à travailler d'abord en tant que technicien, ensuite en tant que réalisateur, à faire des documentaires. Mais c'était vraiment le début. Mmh. Et donc ça commençait à se développer. Mais en parallèle, il y avait ce loisir qui me suivait, qui me surveillait, qui était donc la danse. Et donc pendant quelques années, j'ai travaillé dans l'audiovisuel et la danse était mon loisir. Mais ce loisir, il m'envahissait de plus en plus. Et un jour, j'ai décidé de prendre l'initiative de faire une audition. Et c'est cette audition qui a fonctionné. J'ai notamment travaillé dans un premier temps avec un chorégraphe suisse qui s'appelle Gilles Jobin. Cette activité, cette nouvelle activité pour moi que je croyais éphémère, finalement m'a absorbé complètement et m'a fait cesser le fait de faire des films. mais quand même le lien il existe puisque faire des films, c'était quand même une construction narrative.
Et voilà.
Et cette construction narrative, elle m'a peut-être un petit peu aidé en tant qu'interprète, mais elle m'a ensuite aidé surtout en tant que chorégraphe ou metteur en scène.
Et oui, c'est ça, il y a quand même un lien entre concevoir un film, même bref, et puis concevoir un spectacle.
Tout à fait. Mmh. Pour moi, mon parcours paraît de l'extérieur un peu sinueux, mais pour moi, les choses sont finalement assez naturelles. Faire du sport et faire de la danse, c'est culturellement très opposé, mais physiquement et mécaniquement et corporellement très proche.
Bien sûr.
Donc finalement, les ponts se forment comme ça.
Et alors, danseur à directeur de compagnie, tous les danseurs ne sont pas directeurs de compagnie. Donc là, c'est le suractif, là aussi, qui a pris le dessus, celui qui a envie de pousser les feux et de créer.
Oui, le suractif a encore agi, en effet. Ben, en fait, voilà, j'étais interprète, j'ai voulu... je pensais, comme je le disais, que ça allait être quelque chose d'éphémère. À 30 ans, 31 ans, je me disais, je vais être obligé d'arrêter, parce que dans mon esprit, 30 ans, c'était vieux pour un danseur. Je me suis aperçu finalement que c'était pas le cas, heureusement. Mais en tout cas, donc du coup, à 30 ans, je me suis dit, allez, je vais créer mon propre spectacle pour finir, entre guillemets, ma courte carrière. Et donc, j'ai créé mon premier solo, Érection, avec l'aide d'Aurélien Bory, d'ailleurs, en pensant que ça allait être ma première pièce et ma dernière pièce. Mais en fait, ça a très bien fonctionné. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que l'initiative... d'initier un projet, donc son propre projet, eh bien c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, c'est quelque chose de difficile, mais qui pouvait fonctionner. Et donc, petit à petit, sans le vouloir, sans l'avoir programmé, eh bien, on devient initiateur de projet, et de initiateur de projet à créer une compagnie et devenir directeur artistique d'une compagnie, c'est aussi finalement naturel.
Très bien. Alors, en 2023, donc, on fêtera les 20 ans de ta compagnie, Dernière Minute, un nom qui stimule l'imagination. Et donc, plusieurs pièces seront données à Toulouse. La première, ce sera Public, qui sera donnée les 7 et 8 janvier à l'Aria, dans le cadre de la saison d'Audisud. Public, donc, qui sera donné très bientôt, hein, les 7 et 8 janvier à Cornebarieux, à la jolie salle de spectacle L'Aria, dans le cadre de la saison de l'Issud. Alors, c'est un spectacle qui sera créé par le public lui-même. Alors, ça, c'est vraiment un concept tout à fait incroyable et inusité. De quoi s'agit-il au juste ?
Alors là, c'est un exercice périlleux que je vais commencer, puisque je dois à la fois parler de cette pièce sans trop en parler, puisqu'il faut,
pas dévoiler
il faut préserver mes surprises. Mais en effet, public, comme son nom l'indique, va faire intervenir le public. Donc le public va être acteur de son propre spectacle. Donc en fait, les gens vont venir, comme dans un spectacle normalement, vont venir s'installer dans un gradin. Et je vais parler, je vais commencer par leur parler, et puis je vais leur demander de faire certaines choses. C'est là où je dois garder mon mystère. Donc le public, s'il le souhaite, pourra descendre sur scène. Et là, sur scène, en effet, il y aura des choses à effectuer. Alors des choses très simples, qui peuvent peut-être faire peur aux timides, mais il ne faut pas du tout s'inquiéter. Les timides sont les bienvenus. Ce sont des choses que tout le monde peut faire, quel que soit son âge, quelle que soit son activité physique, sa souplesse, etc. Et au bout d'un certain temps, je réinverserai à nouveau les choses, puisque le public reviendra, après une petite pause café d'ailleurs, je précise, ça sera très convivial, très décontracté.
J'ai lu quand même que ça durerait 4 heures, parce qu'au fond, c'est une véritable expérience, qu'un spectacle.
C'est une expérience, voilà, c'est à mi-chemin entre un spectacle et une expérience, ça dure un certain temps, on verra combien de temps ça dure, ça peut durer en effet... peut-être jusqu'à 4 heures, en effet, tout dépend.
C'est ce qui est marqué sur la plaquette de l'issue.
Tout à fait. Bon,
avec
à
des
fait.
Pauses, j'ai bien lu.
Voilà, ça reste un moment très convivial. Voilà. Et donc, du coup, dans la deuxième partie, en effet, le public reviendra dans le gradin. Et là aussi, dans le gradin, le public aura des choses à faire, des choses à découvrir. Et finalement, aura à la fin, j'espère, une belle surprise. Donc voilà, je reste un peu mystérieux. Je suis obligé, hein, mais en tout cas, voilà, le public dans un cadre très très convivial et j'espère très amusant, très chaleureux, devra intervenir. Voilà.
Bon, pas besoin donc d'être danseur et non. Simplement avoir envie de vivre une expérience avec
Exactement.
D'autres.
Exactement. Il faut quand même s'habiller en tenue décontractée pour pouvoir tout simplement bouger et se déplacer. Voilà. Ça serait super que les gens viennent habillés avec des tenues colorées, plutôt uniformes. Voilà, ça serait un plus. Mais là, pareil, je ne peux pas trop expliquer pourquoi, parce que sinon je dévoilerai mes petits secrets.
Alors, dans les ingrédients artistiques, donc, Pierre, tu seras là, mais il y aura également un DJ et un vidéaste. Donc, on devine un petit peu, peut-être qu'il va se passer des choses visuellement, peut-être avec de la vidéo, quelque chose. Difficile à...
Alors, oui,
à dévoiler.
Je peux pas trop. c'est vraiment compliqué. Alors, un DJ, oui, ça veut dire qu'il y aura de la musique. Et un vidéaste pour, on va dire, garder un souvenir de cette expérience. Et voilà, c'est une expérience que tout le monde peut. Ça paraît un peu mystérieux et peut-être un peu effrayant, mais il faut pas être effrayé. Ça sera quelque chose de très ludique qui va rassembler toutes les générations et tous les curieux et même les timides. Hein. Les timides sont les bienvenus, je le précise.
Surtout les timides. Il risque d'y avoir du monde, alors.
Oui, voilà.
Ça fait du monde.
C'est un argument commercial. Oui. La timidité est à la mode.
Donc, ce sera dans la salle de l'Aria. Il y a à peu près 380 places. Je ne sais plus très bien quelle est la jauge. C'est à peu près 150 ou 200 personnes.
Oui, c'est ça. On ne peut pas, pour des raisons que je ne peux pas trop expliquer non plus, on ne peut pas remplir à 100% les 300 places. Il faut que ce soit à peu près la moitié. 150 places, ça sera super.
Donc ça peut rassurer un peu les timides, parce que les vrais timides, ils n'ont pas envie peut-être d'être mis en valeur individuellement. Non, ce sera d'abord un groupe, même si chacun a son importance.
Non, vraiment, les timides sont les bienvenus. Justement, ce sont presque eux qui m'intéressent le plus. En effet, il n'y a pas de mise en danger ou de mise en spectacle individuel dans cette pièce. C'est la solidarité de tout le monde. Qui va créer, j'espère, les émotions et les événements.
Et donc le public, si je comprends bien, sera tantôt dans les gradins, puis tantôt sur scène. Et c'est peut-être une expérience de se retrouver sur scène.
De toute façon, voilà, c'est aussi une manière de faire vivre à quelqu'un qui est normalement assis dans le public la position de l'acteur ou du danseur mm-hmm. qui est sur scène. Mm-hmm. C'est ça qui peut intimider, mais encore une fois, je répète, pas de souci.
Donc, avis aux amateurs, c'est le samedi 7 et le dimanche 8 janvier, donc à Cornebarieux, à la jolie salle de l'Aria. Et donc, effectivement, il faut prévoir un petit peu de temps et puis des vêtements souples. Alors, il y a un second spectacle qui sera programmé dans le cadre de cette saison anniversaire de cette année 2023. C'est un nouveau spectacle qui s'intitule Hasard et qui sera donné du 12 au 14 avril au Théâtre de la Cité à Toulouse. Alors là aussi, un titre mystérieux, un concept, comme souvent avec vos spectacles. Alors là aussi, il est question d'une combinatoire de mouvements avec des situations imprévues. Est-ce bien cela ?
Voilà, en effet, Hasard, c'est une pièce qui travaille sur le mystère qu'est le hasard. Le hasard, tout le monde l'a déjà appréhendé dans sa vie, on sait très bien ce que c'est. Mais en revanche, si on doit le définir précisément, là, ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué à faire et qui nous emmène dans des questions existentielles importantes sur le temps, l'espace, le cosmos, le destin, le libre arbitre, etc. Donc c'est des questions qui deviennent très, très existentielles, je dirais. Et donc voilà, de manière très beaucoup plus concrète, beaucoup plus mécanique, avec des danseurs et des chorégraphies, on peut travailler un peu sur des combinatoires individuels qui peuvent peut-être créer des phénomènes collectifs plus remarquables, ou en effet travailler sur la question de la rencontre, puisque le hasard c'est aussi lié à nos rencontres. Et dans la vie, on croise des gens, on les bouscule, on les rencontre, on fait connaissance, et des destins peuvent se transformer, et donc les vies peuvent changer grâce ou à cause du hasard. Les vies peuvent changer radicalement. Donc dans cette pièce, il y a la question justement du croisement, qui est un geste de plateau, un geste chorégraphique, de rencontre, et puis de surprise, de mystère. On croit qu'une personne est là, mais finalement elle est ailleurs, etc. Et surtout, on est dans des changements, comme le hasard crée des changements de direction, et bien on a aussi des changements de direction à la fois dans l'espace et à la fois aussi dans la chorégraphie elle-même, qui peut se transformer radicalement. Donc c'est une pièce sur un peu la vitesse. Il y a une sorte de vitesse et de chassé-croisée, de changements de direction, voilà, qui peuvent évoquer cette question du mystère qu'est le hasard.
Alors est-ce à dire que chaque représentation sera unique, parce que la combinatoire des mouvements et le hasard justement viendra un peu bousculer des repères, ou est-ce que finalement malgré tout les choses sont pas mal écrites et prévues ?
Non, les choses sont très écrites, puisqu'il y a justement cette notion de changement de direction assez radicale, et puis des mystères d'apparition et de disparition, je dirais. Donc il y a des choses très très écrites, et en effet dans les parties plus combinatoires, le principe sera le même chaque soir évidemment, mais si on regardait dans le détail la chorégraphie, si on filmait chaque séquence tous les soirs et qu'on l'observe et qu'on la décompose, oui, elle serait différente. Donc mais bon, c'est quand même une pièce justement très écrite, puisque le hasard au théâtre ne peut pas vraiment complètement exister.
Évidemment, il n'y a pas de hasard complètement.
Voilà, donc on essaye de créer de faux hasards, ce qui est aussi un exercice très difficile et qui justement questionne sur ce qu'est exactement le hasard, parce que scientifiquement le hasard n'existe pas, donc du coup
ça, c'est l'ancien scientifique qui parle là, hein.
Voilà, donc du coup vraiment, qu'est-ce que l'aléatoire et qu'est-ce que le hasard finalement, quand on le regarde de loin, on se dit c'est facile, et quand on le regarde de près, c'est très très complexe.
Très bien, donc un spectacle à la fois conceptuel, existentiel, et puis un spectacle avec de l'humour, il me semble, non ? Si j'ai bien compris.
Il y a un petit peu d'humour, mais il y a surtout des danseurs extraordinaires. Il y a six, quatre danseuses et deux danseurs qui sont extraordinaires, donc il y a aussi quand même un grand plaisir du corps et du mouvement de la danse, tout simplement.
Et puis j'ai lu aussi qu'il y avait un artiste de Magie Nouvelle qui était dans l'équipe de création.
Oui, parce que justement, il y a des petites virgules, je dirais des petites virgules de mystère et un petit peu d'illusion optique, puisque justement, on est dans un jeu d'apparition, de disparition. Donc, il y a des petites pointes de magie qui créent un peu ce mystère. Ce n'est pas un spectacle de magie, mais il y a tout de même des petites virgules, on va dire. Et en effet, ce magicien qui s'appelle Antoine Thérieux nous a conseillé dans la création.
Très bien. Ben merci Pierre. Donc, tout au long de l'année 23, donc de beaux rendez-vous publics, hasard, et puis d'autres rendez-vous à l'automne qu'on ne peut pas encore dévoiler puisque ce sera dans la saison 23-24, mais il est question de spectacles dans différentes salles toulousaines et au-delà. Donc, très bon anniversaire.
Ben merci beaucoup.
Merci Pierre.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Tout ce spectacle, les rendez-vous à ne pas manquer.
Alors voici ma sélection des spectacles à ne pas manquer en cette fin du mois de décembre, mois de fêtes et de sorties au spectacle, en famille ou entre amis. Il est encore possible de réserver, de trouver des places sur pas mal de spectacles. Il y a notamment des grandes séries de représentations dans certaines grandes salles toulousaines. Alors commençons donc par Audisud, le dimanche 18 décembre, donc après-demain à 17h, à la Halle au Grain. C'est le Big Band de l'Amazing Keystone Big Band qui donnera sa version jazz d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un spectacle familial. Il se trouve qu'il se déroulera pour partie pendant la finale de football, mais voilà, certains pourront regarder la deuxième mi-temps en replay tout en ayant le plaisir de voir ce fantastique spectacle. Un big band magnifique de 18 musiciens sur scène et puis un récitant, une chanteuse, voilà, qui raconteront à leur façon et en jazz l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Les 21 et 22 décembre au Casino, c'est Folia de Mourad Merzouki, un merveilleux spectacle qui mêle la musique baroque et notamment les tarentelles italiennes aux danses de toute esthétique, du hip-hop au classique. Et puis du 22 au 31 décembre au Théâtre du Capitole, eh bien, c'est Don Quichotte, le ballet fameux, donc sur une musique de Minkus et dans la chorégraphie de Kader Bellarbi, donc tous les soirs au Théâtre du Capitole. Toujours au Capitole, mais cette fois-ci à la Lograin, l'Orchestre du Capitole donnera son traditionnel concert du Nouvel An, un Nouvel An à Broadway, avec des œuvres de Bernstein et Gershwin, les 30, 31 décembre et 1er janvier. Et puis, jusqu'au 25 décembre, à la Grainerie à Balma, il y a toujours le magnifique spectacle de cirque contemporain Low Cost Paradise, par le cirque Pardi, voilà, qui traite des coulisses de la vie et du monde du spectacle de cirque. Et puis, au Théâtre du Pavé, du 16 au 31 décembre, ce sont deux pièces de Marcel Pagnol qui seront en alternance, mises en scène par Francis Azéma. Les deux pièces de Pagnol sont Marius, d'une part, et Fanny, d'autre part. Et enfin, à Tournefeuille, du 16 au 31 décembre, c'est Ubu Roi, le chef-d'œuvre d'Alfred Jarry, le burlesque surréaliste et loufoque qui caractérise cette écriture, par la troupe du Grenier de Toulouse. Voilà donc pour ma sélection de ces spectacles de fin d'année. Un petit peu moins de spectacles dans les théâtres en région, à vrai dire. Là, l'essentiel de l'offre se concentre en effet sur Toulouse, mais après tout, c'est l'occasion, eh bien, pour toutes les personnes de s'égayer et de venir peut-être pendant le temps des vacances faire des balades, aller dans un musée ou une expo et puis terminer la soirée autour d'un verre après un magnifique spectacle dans l'un des théâtres de la Ville Rose. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où j'interviewerai et j'inviterai Lou Broquin, directrice de la compagnie Créature.